Voilà, donc on va poursuivre Hashem, là où on s'arrêtait la dernière fois, toujours dans les halakhot relatives à la bracha d'Asher Yatzar, la bénédiction qu'on récite après être sorti des toilettes, après s'être lavé les mains, à n'importe quelle occasion de la journée. Et nous allons voir ça dans l'immédiat, s'il y a oui ou non nécessité de se laver les mains trois fois, comme on le fait par exemple le matin au réveil pour la Netilat Yadayim. Est-ce qu'il y a cette nécessité, est-ce qu'il y a cette exigence, lorsqu'on sort des toilettes, de se laver, de verser l'eau sur les mains trois fois? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a nécessité aussi de le faire trois fois alterné, comme on le fait exactement comme on le fait le matin au réveil, ou pas? Ce qu'on va voir dans un premier temps. On va voir, est-ce que la halakha exige, lorsque quelqu'un est allé aux toilettes et qu'il sort, il se lave les mains, de quelle façon doit-il se laver les mains lorsqu'il sort des toilettes? Et je parle encore une fois, je précise que tout ce que je suis en train de dire, c'est pas valable seulement le matin, c'est valable pour toute la journée, chaque fois, à chaque occasion qu'on se rend aux toilettes. Est-ce que lorsqu'on sort de ces toilettes, lorsqu'on se lave les mains, est-ce qu'il y a une façon de se laver les mains exigée par la halakha, comme c'est le cas pour la Netilat Yadayim du réveil le matin, ou pas? Donc ce qu'on va voir tout de suite. Dans les poskim, voici les références qu'on peut ramener. Le Eliyahu Rabba, dans ce Siman Dalet, dans les halakhot relatives à la Netilat Yadayim du matin, il fait une déduction des propos de Maran Shulchan Aruch, des propos de Maran dans les halakhot relatives au repas, au chapitre Kufsamehe, chapitre 165 du Shulchan Aruch, paragraphe 1. Là-bas, le Eliyahu Rabba fait une déduction sur ce qui est dit là-bas dans le Shulchan Aruch, et à partir de cette déduction, il conclut en disant qu'il n'est pas du tout nécessaire, lorsqu'on sort des toilettes, il n'est pas du tout nécessaire de se laver trois fois les mains. Comme ça dit le Ali Rabba. C'est-à-dire quelqu'un qui sort des toilettes, se lave une fois les mains, le maspik, zéro. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de verser trois fois l'eau sur les mains. Comme ça dit le Ali Rabba, il fait cette déduction, je répète, il fait cette déduction à partir d'une référence dans le Shulchan Aruch. Il fait cette déduction à partir d'une référence dans le Shulchan Aruch, il en conclut qu'il n'y a absolument aucune nécessité, selon la halakha, de verser trois fois l'eau sur les mains, que ce soit trois fois de suite ou trois fois alternées, peu importe, il dit que ce n'est pas du tout exigé par la halakha, comme ça dit le Rabbah dans un premier temps. Effectivement, ce qu'il dit, apparemment, on peut le prouver à partir de propos des Rishonim, ça veut dire déjà hein, des décisionnaires antérieurs, des décisionnaires médiévaux, comme par exemple le Rosh dans une tshuva, comme par exemple le Tashbetz, l'élève du Maharam de Rothenburg, comme par exemple le Sefer HaEgur. Il y a pas mal de Rishonim. À partir de leurs propos, on peut arriver exactement à la même conclusion que l'Ali Rabbin, qu'apparemment, lorsqu'on va aux toilettes, qu'on se lave les mains, eh bien, il n'y a pas besoin de verser trois fois l'eau sur les mains, il suffit de se laver une seule fois les mains, et maspik. Comme ça, apparemment, ça apparaît dans les poskim. Le Magen Avraham, dans Siman Dalet, il écrit. Il rapporte en fait, Siman Zayin, pardon, il rapporte les propos d'un Sefer qui s'appelle Echal HaKodesh. Ce Sefer Echal HaKodesh veut tirer une preuve du Zohar HaKadosh, Sefer Bereshit, qu'apparemment, il y aurait oui une exigence lorsqu'on va aux toilettes, lorsqu'on sort des toilettes, lorsqu'on se lave les mains, il y aurait effectivement une exigence de le faire trois fois. Mais le Magen Avraham réfute immédiatement cette preuve. Il dit non. La preuve qui ramène le Echal HaKodesh du Zohar HaKadosh, ce n'est pas une preuve. Parce que là-bas, dans cette référence du Zohar HaKadosh, il n'est pas question de la sortie des toilettes. Il n'est pas question du lavage des mains au sortir des toilettes. Il est question du lavage des mains du matin, Netilat Yadayim, au réveil. Et là, effectivement, on avait étudié dans les shiurim précédents, on avait étudié très longuement qu'il y a effectivement une exigence stricte de verser trois fois alterner les mains, trois fois l'eau sur les mains, trois fois alternées sur les mains, de façon à retirer définitivement le ruach ra'a, l'esprit d'impureté qui réside sur les mains au matin. Là où effectivement, là il y a une parfaite exigence de le faire trois fois. Mais donc cette référence dans le Zohar HaKadosh que rapporte le Echal HaKodesh, dit le Magen Avraham, ce n'est pas une preuve pour notre sujet, ce n'est pas du tout une preuve pour prouver que lorsqu'on sort de toilette, il faut laver trois fois. Non, ce n'est pas une preuve, parce que là-bas, c'est complètement hors sujet, puisque là-bas, le sujet n'est pas le lavage des mains après les toilettes. Le sujet là-bas traité dans le Zohar HaKadosh dans cette référence, c'est le lavage des mains du matin, le tilat edaim du matin. Oui, tout le monde sait, c'est absolument établi de façon unanime, claire et nette, qu'il faut le faire trois fois. Sinon, le ruach ra'a, rappelez-vous tout ce qu'on avait étudié, le ruach ra'a, l'esprit d'impureté, ne se retire pas des mains. Si ce n'est pas trois fois alterné, le ruach ra'a, l'esprit d'impureté de la nuit, ne se retire pas des mains. Ça, c'est pour le tilat edaim du réveil. Mais le lavage des mains lorsqu'on sort des toilettes, il n'y a pas cette exigence. Ça dit le Magen Avraham. Et il y a pas mal d'autres aharonim qui tranchent de cette façon selon la halakha. Donc on a dit il y a déjà le Eliyahu Rabba, le Magen Avraham qu'on vient de citer. Il y a aussi le Seder Hayom qui est rapporté dans Knesset HaGedola. Il y a aussi le Gaon Rabbeinu Zalman dans son Shulchan Aruch qui tranche exactement comme ça, qu'il n'y a pas d'exigence de laver trois fois les mains lorsqu'on sort des toilettes. Il y a également le Aruch HaShulchan, comme ça il tranche également qu'il n'y a pas cette exigence de laver trois fois les mains lorsqu'on sort des toilettes. Il y a également le Mishnah Brura, même le Mishnah Brura tranche dans Siman Zayin qu'il n'y a pas cette exigence. Il tranche, il rapporte ce Magen Avraham, là, il pense comme lui, qu'il n'y a pas cette exigence de se laver trois fois les mains, de verser l'eau trois fois sur les mains lorsqu'on sort des toilettes. Donc apparemment, ce serait comme ça qu'il faudrait trancher. Sauf que il y a le Shenel Uchot Abrit, le Shlach HaKadosh, Alav HaShalom, dans Sha'ar HaOtiot, Ot-Tet. Le Shlach HaKadosh, là-bas, stipule très clairement qu'il faudrait se laver les mains trois fois, verser l'eau sur les mains trois fois lorsqu'on sort des toilettes. Mais, d'un point de vue pratique, puisqu'on a vu que déjà, selon de nombreux Aharonim qu'on a cités, le Ali Rabba, le Magen Avraham, Seder Hayom, le Gaon Rabbeinu Zalman, le Aruch HaShulchan, Mishnah Brura, apparemment d'après tous ces poskim, et apparemment il est possible de prouver cela même à partir de certains Rishonim et de Maran Shulchan Aruch, qu'il n'y a pas d'exigence de verser trois fois l'eau sur les mains lorsqu'on sort des toilettes. Il faut trancher selon la halakha, il faut considérer qu'il n'y a pas cette exigence. Donc d'un point de vue pratique, mais Ikar ad-Din, selon le strict din, si quelqu'un pose la question, est-ce que voilà, je sors des toilettes, je vais me laver les mains, est-ce qu'il faut que je fasse trois fois? Non. Qui pose la question? On dit non, tu te laves une fois, on explique. Il n'y a pas besoin de laver trois fois. Mais si maintenant quelqu'un veut s'imposer à titre personnel, c'est-à-dire, il sait qu'il n'y a pas besoin, il sait que ce n'est pas nécessaire. Il connaît l'alakha. Mais maintenant, lui, il veut s'imposer à titre personnel, il veut s'imposer la humra, la rigueur de se laver trois fois. Parce qu'il veut prendre en considération les propos du Shlach HaKadosh, etc. Tavoir alav beracha. Cette personne-là est digne de bénédiction. Mais encore une fois, comme je vous ai dit plusieurs fois, chaque fois qu'on veut s'imposer une humra, chaque fois qu'on veut s'imposer une rigueur non exigée par la halakha, c'est qu'on connaît la halakha. Ça veut dire, chaque fois qu'on s'impose des choses en plus, c'est qu'on connaît le strict minimum. On connaît la base. La base, c'est que c'est permis, il n'y a pas besoin. La base, c'est que la halakha n'exige pas de se laver trois fois. Bon, ok, tu connais ça, tu as appris ça, il n'y a pas de problème. Alors tu veux t'imposer la rigueur de le faire, ça te regarde, c'est personnel. Mais encore une fois, chaque fois j'insiste sur ce point, la humra, quand on arrive au niveau de la humra, c'est qu'on connaît la halakha. Si quelqu'un fait des humrot alors qu'il ne connaît pas la halakha, c'est quelqu'un qui fait des humrot parce que le mot humra, qui veut dire rigueur, peut venir aussi de la racine étymologique du mot hamor, c'est un idiot. C'est quelqu'un qui fait des humrot bêtement, c'est pas assez kof be'alma. Il fait simplement, il singe les autres. Quelqu'un celui-là il fait ça, moi je fais ça. Est-ce que tu sais si c'est exigé ou pas? Est-ce que c'est obligatoire, pas obligatoire? Non, bah lui il a fait, je fais. Donc c'est pas un mahmir, c'est un hamour. Voilà, c'est pas quelqu'un de rigoureux, c'est un âne. D'accord? Donc quand on fait des humrot, c'est qu'on connaît la halakha. Si quelqu'un ne connaît pas la halakha, alors c'est pas la peine de faire des humrot. Donc, encore une fois ici, la halakha elle est très claire. Alakha est tranché dans les poskim, qu'il n'y a absolument aucune exigence de se laver trois fois les mains lorsqu'on sort des toilettes. Maintenant, effectivement, il y a le Shlach HaKadosh. Il y a le Shnei Luchot Abrid, apparemment, qui tranche, qu'il faudrait se laver les mains. D'ailleurs, il n'est pas tout seul. Il y a le Benish Hai aussi. Le Benish Hai, dans Parashat Toldot, Ot Tet Zain, il tranche également comme le Shnei Luchot Abrid, qu'il faudrait se laver trois fois les mains. D'ailleurs, le Benish Hai rajoute même autre chose. Il dit non seulement il faut se laver trois fois les mains lorsqu'on sort des toilettes, mais il faut le faire exactement de la même façon que le matin au réveil, la Netilat Yadayim. Trois fois alterné, carrément. Donc, il y a comme ça le Shnei Luchot Abrid, le Benish Hai, encore quelques-uns, encore d'autres qui considèrent. En tout cas, nous, d'un point de vue halakhique strict, il n'y a pas cette exigence. On tranche l'halakha selon la majorité des poskim, selon Maran Shulchan Aruch, d'après le Ali Rabba, etc. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, il n'y a pas cette exigence. Si maintenant quelqu'un, à titre purement personnel, sachant pertinemment que l'halakha ne l'exige pas, mais lui, à titre purement personnel, il veut s'ajouter un plus,
Il veut s'ajouter une humra, voilà, beracha, pourquoi pas. Il a le droit. Mais simplement, encore une fois, quand vous vous ajoutez des humrotes à titre personnel, renseignez-vous d'abord de la halakha. Si la halakha autorise et que vous en êtes conscient, et malgré tout vous voulez vous imposer la humra, ça vous regarde. Mais s'imposer des humrotes simplement parce que le voisin ou le copain il le fait, ça ne s'appelle pas être mahmir, ça s'appelle être un hamour. Très bien. Ça c'est uniquement le nombre de fois. Alors on a dit au niveau du nombre de fois, lorsqu'on sort de toilette, il n'y a pas. Tu peux te laver une fois, tu peux te laver 10 fois, tu peux te laver 2 fois, c'est ce que tu veux. Il n'y a pas d'exigence sur le nombre de fois. Maintenant, qu'en est-il de l'exigence de la présence du keli pour se laver les mains lorsqu'on sort des toilettes? Est-ce que la halakha exige, lorsqu'on sort des toilettes, dans la journée, est-ce que la halakha exige de le faire impérativement avec l'ustensile, avec le keli, comme on le fait pour la netilat tzedakim du matin ou comme on le fait pour la netilat tzedakim du repas, ou non? Ce n'est pas des avis personnels que je demande, c'est la halakha. Donc ce qu'on va voir, ce que vous faites ou ce que moi je fais, tout le monde s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que les poskim exigent. Après le reste, chacun sa life. Donc ici, on va essayer de voir maintenant. On a vu que déjà, il n'y a pas de nombre de fois exigé. Maintenant, on va voir est-ce que la présence du keli est exigée. Alors, là par contre, c'est un peu différent. Toujours le Ali Rabba ramène au nom du Maharaj HaKohen que la Netilat Yadayim, enfin le lavage des mains, on va le traduire comme ça, c'est plus simple, le lavage des mains au sortir des toilettes nécessite un keli. Comme ça, apparemment, le Maharaj HaKohen, non, pardon, excusez-moi, le contraire, le Maharaj HaKohen rapporté dans les rabbins, il dit non, ça nécessite pas de keli. C'est quelqu'un d'autre qui dit que ça nécessite de keli, on va voir tout à l'heure. Excusez-moi, je recommence. Donc, le Ali Rabba, encore lui, il cite l'opinion du Maharaj HaKohen selon laquelle, même si effectivement ce serait bien de s'imposer la humra, de se laver 3 fois, mais en tout cas, il n'y a pas matière à s'imposer la moindre rigueur d'exiger un keli. Il n'y a pas besoin de keli. Comme ça, il dit même Fourash, le Ali Rabba, au nom du Maharaj HaKohen, qu'il n'y a pas besoin de keli lorsqu'on se lave les mains au sortir des toilettes. Maran Ahida cite exactement cette référence du Maharaj HaKohen, il dit exactement la même chose. Il dit, lorsqu'on sort des toilettes, il n'y a pas besoin de keli. Je peux me laver sans keli. Il n'y a pas besoin de keli. Et malgré que, à la fin de ses propos, le Hida dit au sujet du nombre de fois, qu'est-ce qu'on a dit précédemment sur le nombre de fois? On a dit que Minad-Din, d'après le strict, il n'y a pas besoin de se laver 3 fois au sortir des toilettes. Qui va s'imposer la rahmoua de se laver 3 fois, t'avoir à la veracha. Mais nous, on en dit, le strict din, il n'y a pas besoin. Le Hida rapporte également ça. Il dit, après le strict din, il n'y a pas besoin de se laver 3 fois. Mais il termine ses propos en disant, Ve hazinan, et rabbanan kashishai, shirahatsu, shlosha pe'amim. Le Hida termine ses propos en disant, j'ai vu mes rabbanim à Yerushalayim. Hida vivait il y a 200 ans. Un peu plus de 200 ans. Et il dit, j'ai vu mes rabbanim dans la ville de Jérusalem, que chaque fois qu'ils sortaient des toilettes, ils l'avaient 3 fois. Mais seulement, cette fin de propos du Hida vient juste remettre en question l'histoire des 3 fois. Mais il ne parle pas de keli. Encore une fois, il ne parle pas de keli. Il parle de 3 fois. C'est-à-dire, il y a un robinet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 3 fois chaque main, mais seulement alterné. Ouais, c'est ça que ça veut dire 3 fois. Il n'y a pas de keli. Donc c'est conforme à ce qu'il a dit le Ali Rabba. Ça va très bien avec ce qu'il dit le Ali Rabba au nom du Maharaj HaKohen. Que même si effectivement il y a peut-être, comme on a dit, il y a peut-être matière au niveau du nombre de fois, c'est bien de se laver 3 fois lorsqu'on sort des toilettes. Allez, admettons, d'après le din, non, d'après le strict din, il n'y a pas besoin. Mais bon, si tu veux t'imposer de humra, t'avoir allé khabracha, pourquoi pas. Mais le keli, et d'avoir kazé. D'après le Ali Rabba, il n'y a pas besoin. D'après le Hida, il n'y a pas besoin. D'ailleurs, juste entre parenthèses, le Rav Shalit Hara Ovadia, on l'a vu faire plusieurs fois. C'est comme ça ses enfants rapportent que Rav Ovadia, lorsqu'il sort des toilettes, il se lave 3 fois les mains alternées, mais sans keli. Comme ça, avec le robinet. Même si un keli devant lui, il ne le prend pas. Pas besoin, pas la peine. Les 3 fois, hein, même, bien que d'après le din, ce n'est pas exigé, mais à la limite, pourquoi pas s'imposer de prendre là. Mais le keli, il ne le prend pas. D'accord. Donc on voit déjà d'ici qu'au niveau du keli, il n'y a pas du tout d'exigence, ni matière à s'imposer une Humra. D'ailleurs, il y a d'autres preuves encore. Regardez même le Ben Ishaï. Le Ben Ishaï qui pourtant exige les trois fois, quelle est sa position sur le keli? Regardez. Le Ben Ishaï dit comme ça dans Parashat Toldot Tetzain. Il dit, cette ablution, ce lavage des mains au sortir des toilettes, à n'importe quel moment de la journée, n'est pas nécessairement obligatoire de le faire. Attention, suivez bien la nuance. N'est pas nécessairement obligatoire de le faire dans un keli. J'ai pas dit avec. Il n'est pas nécessaire de le faire dans. Par opposition à la netilat sadaim du matin, la netilat du réveil au matin, il faut jamais la faire sur un sol. Il faut toujours la faire dans quelque chose, dans l'évier, dans un lavabo, dans une bassine qui va être ensuite jetée, etc. Enfin, qui va être ensuite déversée. Toujours dans quelque chose. Jamais sur un sol. Pourquoi? Ruach ra'a, à cause de l'esprit d'impureté qui peut se propager. Mais dit le Ben Ishaï, s'il s'agit d'un lavage de main, d'un sortir de toilette, il n'y a pas besoin, tu peux le faire. Si quelqu'un est dehors, je ne sais pas, dehors, il veut se laver les mains par terre, il y a une moutarde, il n'y a pas de problème. Cette ablution-là, ce lavage des mains-là du toilette, n'est pas comme le lavage des mains de le réveil du matin. Celui du réveil du matin est beaucoup plus rigoureux. L'eau ne doit pas être déversée sur un sol. Mais par contre, l'eau du lavage des mains au sortir de toilette, si quelqu'un est confronté, il n'a pas le choix, il est dehors, il n'y a pas de problème. Il peut se laver les mains sur un sol, ce n'est pas un problème. Ensuite, dit le Ben Ishaï, mais par contre, comme ça il dit, il n'y a pas besoin d'exiger de le faire dans un ustensile qui va venir récupérer cette eau, il n'y a pas besoin. Mais par contre, dit le Ben Ishaï, il faut faire attention à deux points. Il dit, il faut faire attention de le faire trois fois alterné, comme on l'a déjà dit précédemment. Il faut faire attention de le faire avec un minimum de quantité d'eau. C'est le minimum exigé par la halakha, revi'it. Revi'it, c'est que dalle, c'est rien du tout, c'est 8 centilitres,1. D'accord? On utilise beaucoup plus d'eau quand on se lave les mains, que ce soit la netilat du réveil, du repas, ou quand on sort des toilettes. On utilise beaucoup plus d'eau qu'un revi'it. L'instant, c'est, voilà. Et il termine ses propos comme ça. Que ça veut dire? Ça veut dire que le Ben Ishaï n'a exigé que deux points. Quels sont les deux points? De le faire trois fois alterné, et de le faire avec un minimum de revi'it. Et Kelly, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé de Kelly. Il a dit, le seul Kelly dont il a parlé, c'est justement pour dire, il n'y a pas besoin d'un Kelly qui va récupérer l'eau, dans lequel on va, il n'y a pas besoin. C'est la seule fois où il a parlé de Kelly. Mais sinon, de dire qu'il faut le faire avec un ustensile pour verser l'eau, il n'en a pas du tout parlé. Il n'en a pas fait mention. Encore une preuve de plus. Comme le Halir Ben, au nom du Maharaj HaKohen, comme le Hida, au nom du Maharaj HaKohen, Ben Ishaï vient se joindre à eux, et il pense lui aussi que lorsqu'on sort des toilettes, il n'y a pas besoin d'utiliser un keli pour se laver les mains. Une preuve de plus. Troisième preuve. Quatrième preuve maintenant. Quatrième preuve qu'il n'y a pas besoin de keli. Le Shulchan Aruch lui-même, Bikhvodo Be'atzmo. Le Shulchan Aruch, Maran, dans Siman Dalet, Sa'if Zayn, dans chapitre 4, paragraphe 7 du Shulchan Aruch, là-bas, on traite des halakhot netilat yadayim du matin, dont on a longuement parlé dans les shiurim précédents. Là-bas, il traite, dans ce chapitre 4, des halakhot relatives à la netilat yadayim du réveil le matin. Et là-bas, au Sa'if Zayn, paragraphe 7, Maran écrit « Tov lehakpid b'chol ha-devarim shemi'akevim et netilat yadayim la se'ouda » Maran écrit, il est bon, il est bien de faire attention, de veiller à respecter toutes les conditions qui peuvent invalider la netilat yadayim du repas. C'est-à-dire, Maran dit, dans la netilat yadayim du matin, il est bon de respecter toutes les conditions, les mêmes conditions que la netilat yadayim du repas. Deux choses. D'abord, il a dit « il est bon ». Il n'a pas dit « il est obligatoire ». Il a dit « il est bon ». Et qu'est-ce qui peut invalider la netilat yadayim du repas? Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent invalider la netilat yadayim du repas. Il y a beaucoup de conditions. Vous verrez, quand on arrivera à étudier ces halakhot, là, vous verrez qu'il y a du boulot. Mais là-bas, d'abord, le Rama, d'ailleurs, il le dit sur place, une des conditions sine qua non de la netilat yadayim du repas, c'est la présence du keli. Là-bas, le keli, il est obligatoire. Netilat yadayim du repas ne peut absolument pas se faire sans keli. hors de question. D'accord ? Là-bas, c'est une condition sine qua non. Que dit Maran dans la Netilat Yadayim du matin ? Il dit, eh ben tu sais, la Netilat Yadayim du matin, si tu peux la faire selon les mêmes exigences que la Netilat Yadayim du repas, en d'autres termes, entre autres, eh bien avec le Keli, c'est bien. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est bien. Tov. Il n'a pas dit Hayav. Il n'a pas dit obligatoire. Il a dit Tov. Mamma imashma. Qu'est-ce qu'on apprend ici ? Que dans la Netilat Yadayim du matin, du réveil, le, même dans celle-ci, qui pourtant elle est rigoureuse, Ruah Ra'a, elle a pour vocation de retirer l'esprit d'impureté des mains, etc. C'est grave, la Netilat Yadayim du matin, c'est grave. Et bien même dans celle-là, Min Haddin, le Keli n'est pas obligatoire. La preuve, c'est que Maran dit Tov, Tov le Hakfid, c'est bien. Il n'a pas dit c'est obligatoire, il a dit c'est bien. C'est bien de la faire avec un Keli. La Netilat Yadayim du matin, du réveil, c'est bien de la faire avec un Keli. Il a dit, c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire c'est bien ? C'est pas obligatoire. Alors maintenant, si tu me dis ça, dans la du réveil du matin, tu m'as dit que le Keli, Min Haddin, il n'est pas totalement obligatoire. C'est ce que tu viens de me dire. Ça veut dire que quand je sors du toilette, vous savez très bien, une fois je vous ai dit, je crois, vous savez que l'impureté des toilettes n'est pas aussi importante, aussi intense, que le Ruah Ra'a, que l'esprit d'impureté qui réside sur les mains au matin. Réveil. L'esprit d'impureté qui réside sur les mains lorsqu'on se réveille le matin a une intensité beaucoup plus forte que l'impureté des toilettes. Beaucoup plus forte. Alors regardez, raisonnez a fortiori. Si déjà, dans la Netilat Yadayim du réveil au matin, qui est l'intensité d'impureté la plus élevée, la plus forte, si déjà là-bas, on n'exige pas de Keli Min Haddin, c'est simplement bien, c'est simplement un plus. Ouais ? Déjà là-bas, on n'exige pas. Pourtant, c'est la plus haute, c'est la plus forte. On n'exige pas de Keli. Kal vachomer a plus forte raison lorsque je sors de toilette où l'intensité d'impureté est beaucoup moins importante. Kal vachomer a plus forte raison qu'il n'y aurait pas besoin de Keli. C'est une déduction qu'on fait du Shulchan Aruch. Donc voilà une preuve de plus, quatrième preuve, pour dire qu'il n'est pas exigé par la halakha de se laver les mains avec un keli lorsqu'on sort des toilettes dans la journée. Quatre preuves. Je résume les quatre preuves. On a le Ali Rabba au nom du Maharaj Kohen. On a le Hida au nom du Maharaj Kohen. On a également le Beni Shai dans Parashat Toldot Ot Tetzain. Et d'ailleurs, dans un autre livre à lui, il le dit explicitement dans Od Yosef Hai, Parashat Vayetse. Le Beni Shai, le Beni Yosef Hai, Bagdad, écrit explicitement que lorsqu'on se lave les mains, lorsqu'on sort des toilettes, ça n'exige pas du tout de Keli. Et quatrième preuve, Maran Shulchan Aruch Bichvado Be'atzmo. Maran Shulchan Aruch lui-même, déduction faite de ses propos dans le Siman Dalet Saif Zain, où là-bas il dit que pour la Netilat Yadayim du matin, il est simplement bon de la faire avec un Keli. Donc, ça, c'est-à-dire forcément, ce n'est pas obligatoire. Si déjà celle-ci, il n'est pas obligatoire de la faire avec un Keli, à plus forte raison dans la journée lorsque je sors de toilette, où l'intensité d'impureté est beaucoup moins importante que l'impureté du matin, à plus forte raison qu'il ne serait pas exigé de la faire avec un keli. D'ailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Rav, Rav Ovadia Bechvodo Be'atzmo, Rav Ovadia Shalita, lui-même, on l'a observé plusieurs fois, que lorsqu'il sort des toilettes, qu'il y a un keli devant lui ou qu'il n'y en ait pas, il ne le prend pas. Il se lave les mains trois fois, c'est vrai. Il s'impose cette khumra qui n'est pas exigée par la halakha de passer trois fois ses mains sur le robinet. Ça, c'est vrai. Bien que ce n'est pas exigé par la halakha. Mais il s'impose quand même. Mais par contre, la khumra de Keli, ça s'impose absolument pas. C'est plus important de se laver les mains trois fois sur le robinet que de prendre un Keli et de se laver une fois. Il est plus important de faire trois fois ça quand on sort des toilettes, comme il faut, c'est-à-dire toute la main comme il faut, trois fois alterné, ça fait six fois, enfin, bref, vous m'avez compris. Ouais. C'est plus important de faire ça sans Keli que de prendre un Keli et de le faire une fois. Vous voyez ce que je veux dire ? En vérité, Minatin, les deux sont valables. Mais ça veut dire maintenant en termes d'importance, s'il y a à choisir une khumra à faire, si quelqu'un il s'ennuie, il a envie de faire des khumras, ouais. S'il y a une khumra à faire, s'il y a une rigueur à s'imposer, si je veux m'imposer quelque chose, il vaut mieux que je m'impose trois fois alterné sans Keli que une fois avec Keli. Et tu peux aussi gratter l'oreille gauche avec la main droite. Tu peux aussi faire ça. D'accord ? Bien. Tout ceci par opposition à ce qui est écrit dans Shelot Utshuvot Shama Shelomo du Gaon Rishon Letzion, le grand rabbin séfarade actuel d'Eretz Israël, Rabbi Shelomo Amar Shalita. Il écrit dans Shelot Utshuvot Shama Shelomo que le keli est exigé par la halakha. Bemhila mekvot torato zelo nachon. On voit ici à la lueur de tout ce qu'on a vu, à la lueur de tous les poskim qu'on a cités, c'est pas du tout conforme à la halakha ce qu'il dit. D'après les poskim qu'on a dit, c'est pas juste. D'après la halakha, le keli n'est strictement pas exigé. D'accord ? Très bien. D'ailleurs, Rabbi Meir Mazouz, Shalita, le Rosh Hashivat Kiseh Rahamim Bnei Brak, il atteste dans une tshuva manuscrite, écrite de sa main, il atteste que son père, Alav Shalom, notre maître, le Gaon Kadosh, Rabbi Masliach Mazouz, Alav Shalom, Zecher Sadiq Kadosh Varacha, Hashim Kom Damo, qui était un des plus grands, plus haute sommité halakhique de notre temps, qui est Niftar en Tunisie, il y a à peu près un peu moins d'une quarantaine d'années. Il a été assassiné par un arabe, Mahshemo Zikro, à Tunis. C'était une des plus hautes sommités du monde Sepharad. Des plus hautes sommités halakhiques du monde Sepharad. Il écrit son fils, Badel Haim Tovim, qui est aujourd'hui le directeur des institutions Kiseh Rahamim Bnei Brak. Il écrit son fils, Rabbi Meir Mazouz, que son père, quand il se lavait les mains, quand il sortait des toilettes, jamais prenait un keli. Donc on a encore une preuve de plus que c'est comme ça qu'il faut se comporter. Quelqu'un qui cherche la halakha, il cherche maintenant le emet. Le emet, c'est qu'il n'y a pas besoin de keli. T'as envie de prendre le keli, je prends le keli. T'as pas envie. Simplement, sache que c'est pas exigé. C'est pas exigé. Très bien. Ça, donc pour résumer, on a vu déjà donc deux premiers sujets. Premier sujet, quand on sort des toilettes, est-ce qu'il est exigé par la halakha de verser de l'eau un certain nombre de fois ou pas? Réponse, non. La halakha, le strict din, n'exige pas un nombre de fois. Tu peux te laver les mains une fois, tu peux te laver les mains 10 fois, 30 fois, ce que tu veux. Il n'y a pas de nombre de fois exigé. Si certains veulent s'imposer à titre personnel, connaissant la halakha selon laquelle c'est pas exigé, mais si maintenant ils veulent s'imposer cette exigence, tu vas alehem berakha. S'ils veulent se laver 3 fois, alterner sur le robinet, quand ils sortent des toilettes, c'est bien, mais c'est pas du tout exigé par l'alakha. Deuxième sujet, est-ce qu'on doit prendre un keli? Est-ce que lorsqu'on sort des toilettes, est-ce qu'on doit prendre impérativement un ustensile pour se laver les mains? Réponse, faux. C'est faux. Il n'y a pas besoin de prendre un keli, et c'est même pas du tout à exiger. Encore une fois, si quelqu'un veut prendre un keli, il n'a qu'à le prendre. Mais c'est pas du tout exigé par l'alakha. Maintenant, ça va, c'est clair ce que j'ai dit? Il y a des questions? Hana?
Oui, j'avais...
Dites-moi.
Oui, je me suis posé une question, mais c'est pas tout à fait... J'étais en train de faire un essai, j'avais des gants. Je jette mon gant dans les toilettes. Est-ce que le fait de rentrer dans les toilettes avec des gants, ça exige que je me lave quand même?
Joli, c'est une belle question. Une bonne question. C'est vrai qu'on a appris dans les shiurim précédents, quand quelqu'un qui rentre aux toilettes, simplement, même s'il va juste pour y prendre un objet ou poser un objet, ou pas pour y faire ce qu'on a l'habitude d'y faire, il rentre pour autre chose. Stam, il rentre, il sort. On a dit que normalement, quelqu'un qui rentre aux toilettes doit se laver les mains. Il ne fait pas la charia tsar, bien sûr, parce qu'il a pas fait ce qu'on a l'habitude d'y faire. Il ne fait pas la bracha de charia tsar, mais il se lave les mains. C'est ce qu'on a dit. Mais là, effectivement, la personne allait rentrer avec des gants. Pas mal, hein? Ah, ça me fait penser à quelque chose. Je ne vous répondrai pas aujourd'hui. Mais ça me fait penser à quelque chose. Les poskim disent que si quelqu'un il a dormi avec des gants, juste, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est un exemple qui ressemble un peu à ce que vous dites. Si quelqu'un a dormi avec des gants toute la nuit, le matin il se réveille, il n'y a pas d'eau pour se laver les mains, il n'y a pas d'eau pour faire une tila tadaïm, il est dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Il fait du camping, il fait je sais pas ce qu'il avait, enfin rien. Il est dormi avec des gants. Et bien les postes qui me disent qu'il peut faire la tfila. Il peut faire le schéma, il peut tout faire. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, tout au début quand on avait fait la Lachot Mitzvah Tzedaim du matin, On avait dit que d'après le Rosh, d'après un des six avis qu'on avait cités dans les Rishonim, d'après le Rosh, la Netilat Yadayim du matin, elle a été instituée par le Hachamim, par nos maîtres, uniquement dans le but de pouvoir réciter le schéma et la prière avec des mains propres. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'il y a probabilité que les mains humaines, les mains de l'individu, les mains qui sont une partie mobile du corps humain, il y a une forte probabilité que les mains, pendant la nuit, sont entrées en contact avec des parties intimes. Et le matin, il ne peut pas faire le schéma et la Amida avec des mains pareilles. Et c'est pour ça que Hachamim serait venu instaurer la Netilat Yadayim. Et là-bas, les postes qui me disent, selon cela, s'il a dormi avec des gants, et ben même si ses mains sont entrées en contact avec les parties intimes, mais ses mains n'ont pas été souillées, et les postes qui me disent que grâce à ses gants, il pourra faire la tefila le matin s'il n'y a pas d'eau. S'il n'a pas d'eau, par exemple, pour se laver les mains, il pourra quand même faire la tefila. Parce que grâce au fait qu'il a dormi avec des gants. Alors ça me fait penser un peu à ça. Ce que vous me dites, vous êtes rentré aux toilettes, mais avec des gants. C'est-à-dire, vous êtes rentré jeter l'eau de votre eau de la vaisselle aux toilettes avec des gants. Est-ce que vous lavez les mains ou pas? Alors, est-ce que c'est similaire? Si on dit que c'est similaire, alors effectivement, il n'y a pas besoin de se laver les mains. Si on dit que c'est pas similaire, faut que je réfléchisse. Je ne peux pas vous répondre tout de suite. Bonne question. Très bien. Alors maintenant, ça va? Il y a d'autres questions?
Est-ce que le fait de bain des toilettes, c'est pareil?
Non. Jamais de la vie, on a déjà dit ça. On a dit, sauf si dans la salle de bain, il y a une toilette. Là, c'est différent. Dans ce cas-là, c'est une toilette. Mais si la salle de bain, c'est une salle de bain, il n'y a pas. Si je rentre, je sors de la salle de bain librement, sans problème. Sauf, bien sûr, s'il y a une toilette dedans. Dans ce cas-là, c'est différent. Et s'il n'y a pas de toilette, sinon, une salle de bain ordinaire, il n'y a aucune... Je peux rentrer et sortir de la salle de bain sans avoir chaque fois à me laver les mains à la cuisine. Bien. Maintenant, on va s'intéresser à un autre aspect de la bracha d'Asher Yetzah. Combien de temps avons-nous pour réciter la bracha d'Asher Yetzah? Quelqu'un va aux toilettes. Il sort des toilettes, il se lave les mains et il ne fait pas Asher Yetzah tout de suite. Il rencontre son copain ou sa copine. Ah, salut, tu vas bien, dadada. Il commence à partir, discussion, ceci, cela, tatata, d'une chose à l'autre. Il oublie de faire la bracha d'Asher Yetzah. Bon, au bout d'un moment, au bout d'un petit moment, le copain ou la copine, il le lâche, il s'en va. Et il se rappelle, ah attends, mais j'étais aux toilettes là tout à l'heure. Et je sais pertinemment que je n'ai pas fait Asher Yetzah. Je sais, c'est pas un doute, je sais pertinemment. Mais attends, mais ça fait un petit moment déjà que j'y étais. Est-ce que je peux encore la faire? Je peux pas encore la faire. Vous savez très bien que les brachot, certaines brachot, par exemple comme Birkat Hamazon, bracha harona généralement. Généralement la bracha harona, la bracha finale sur la consommation d'aliments, a une limite dans le temps. On ne peut pas faire bracha harona ad vitam aeternam. Genre le gars il a mangé à 2h et à faire Birkat Hamazon à 5h. Jamais de la vie, tu rêves, ça va pas non? Tu peux pas faire Birkat Hamazon quand tu veux. Ou même à la mihya, ou pour une vachote, ou à la haït. Bracha harona, elle a une limite. Je ne peux pas la faire, je n'ai pas non plus toute ma vie pour la faire. Une bracha finale alimentaire, je sais pas, hein, j'ai un certain laps de temps pour pouvoir la faire. Généralement ce sont 12 minutes. Généralement c'est 1h12. Alors, maintenant, qu'en est-il de Bracha d'Asher Yetzah? La Bracha d'Asher Yetzah, est-ce que j'ai aussi un laps de temps pour pouvoir la faire? Ou est-ce qu'on va dire que non, puisque c'est une bracha de Hoda'a, une bracha à travers laquelle on adresse, comme on l'a expliqué la semaine dernière, on adresse un merveilleux remerciement, une reconnaissance extraordinaire à Kadosh Baruch Hu, puisque c'est une bracha de reconnaissance, est-ce qu'elle serait illimitée? C'est ce qu'on va, dans cette HM, développer maintenant. Alors, il faut savoir, les amis, que dans les Rishonim d'abord, il n'y a rien de clair sur ce point. Il n'y a rien de très clair. Dans les décisionnaires médiévaux, il n'y a rien de très clair qui apparaît. Il n'y a quasiment rien d'ailleurs qui apparaît sur ce point. Quasiment rien, si ce n'est la petite référence que je vais vous rapporter tout de suite. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Le Shulchan Aruch ne s'exprime même pas là-dessus. Le Shulchan Aruch ne s'exprime pas sur le laps de temps que j'ai pour pouvoir réciter la Sharia Tzah. Ni les Rishonim, de façon claire, ni le Shulchan Aruch. Donc la mahloket, elle est retombée quasiment dans les Aharonim. On va voir. Déjà dans les Rishonim, la seule trace qu'il y a de ce problème, de cette question, cette question a en fait été posée à l'époque des Rishonim. Elle a été posée, la seule référence qu'on a, c'est le Maharaj Or Zarua, le fils du Or Zarua, le fils de Rabbi Tzachak Vienna, qui vit au Moyen-Âge, en Autriche, à Vienne, son fils, Rabbi Haïm Or Zarua. Lui, il dit dans ses teshuvot, dans ses réponses à l'Arik, il dit, j'ai posé un jour la question à mon maître, Rabbeinu Meir. Son maître, Rabbeinu Meir. J'ai posé la question, combien de temps nous avons, exactement cette question qu'on est en train de débattre maintenant, combien de temps nous avons pour faire Shai Yetzar? Est-ce que c'est comparable à Birkat Amazon? Vous savez que Birkat Amazon, normalement, le din, il est comment? J'ai mangé mon repas avec du pain, etc. Maintenant, je n'ai pas fait Birkat Amazon tout de suite à la fin du repas. Normalement, j'ai, comme temps pour faire Birkat Amazon, j'ai en fait, tant que je n'ai pas de nouveau faim. C'est-à-dire, généralement, c'est 1h12. Généralement, 72 minutes, c'est Zman Ikoul. Généralement, 72 minutes, c'est le temps qu'il faut pour digérer. Pour digérer un repas moyen accompagné de pain. Ouais. Bah, si vous avez mangé une choucroute alsacienne et que ça a duré 2h30, je pense que vous en avez pour la journée, mais pour la digérer. Mais bon, ça veut dire un repas normal, un repas moyen accompagné de pain. Généralement, 72 minutes, c'est l'estimation faite. C'est l'estimation à peu près qu'il faut pour. C'est le temps qu'il faut à peu près pour pouvoir digérer de façon moyenne. Donc généralement, Birkat Amazon, si je n'ai pas fait Birkat Amazon immédiatement à la fin du repas, généralement, j'ai combien de temps pour pouvoir le faire? Eh bien, on estime à 72 minutes le temps qu'il faut pour avoir de nouveau faim. Ça veut dire le temps qu'il faut pour ne plus être rassasié du repas qu'on a fait. D'accord? C'est comme ça que ça marche, Birkat Amazon. Alors, le Marah Orzaroua, dans sa question qu'il a posée à son maître, Ben Omeir, il lui a dit, écoute, est-ce que ça marche comme Birkat Amazon? Mais c'est un petit peu difficile à dire. Il lui a dit, c'est un peu difficile à comparer avec Birkat Amazon. Parce que Birkat Amazon, je comprends bien que j'ai 72 minutes, que j'ai du temps pour pouvoir le faire. Parce que tant que je suis encore rassasié de mon repas, je tire encore profit du repas. Je l'ai encore en moi. Donc j'ai encore une satisfaction. Mais à Shai Yetzar, c'est difficile de comparer. Ça n'a strictement rien à voir. Tu ne peux pas dire, qu'est-ce que tu vas dire? Au contraire, ça y est, il s'est débarrassé d'une gêne. Il s'est débarrassé d'un... Donc ça veut dire maintenant, ça n'a rien à voir avec... Vous comprenez bien? Ouais. Vous comprenez que ça n'a rien à voir avec Birkat Amazon. Birkat Amazon, je peux comprendre qu'il y a un laps de temps. Parce que tant qu'il n'est pas affamé de nouveau, tant qu'il est encore rassasié, ça veut dire qu'il tire encore profit. Donc il peut encore faire Birkat Amazon. Je comprends bien. C'est encore chayard de dire, c'est encore ici concevable de dire qu'il va remercier Akadosh Baruch Hu sur ce qu'il a mangé. Parce qu'il l'a encore dans le ventre. Donc il a pleine satisfaction de ce qu'il a consommé. Mais Shai Yetzar, ça n'a strictement rien à voir, aucun rapport. On ne peut pas dire, ah bah oui, Shai Yetzar, c'est pareil. Et le Maharaj Orzaroua a dit, et mon maître ne m'a rien répondu. J'ai posé la question, je vais citer les aspects du problème tels que je les voyais, et il ne m'a pas répondu de Zman, il ne m'a pas répondu de laps de temps particulier sur Shai Yetzar. Il ne m'a pas répondu. Donc il n'y a pas de réponse, dans les Rishonim, il n'y en a pas. C'est tout, c'est la seule trace dans les Rishonim de ce problème. La seule trace du problème, du laps de temps que nous avons pour réciter la bracha d'Asher Yetzar est ce Maharaj Orzaroua. C'est la seule trace que nous avons du problème. Siman Kof Aleph. C'est la seule trace que nous avons. Donc, comme je disais tout à l'heure, puisque dans les Rishonim et dans le Shulchan Aruch, la question n'a pas réellement été traitée, et encore bien moins conclue, la mahloket, la divergence d'opinion est retombée dans les Aharonim. Effectivement, les Aharonim, les décisionnaires qui sont venus après le Shulchan Aruch, ont débattu longuement du problème, du laps de temps que nous avons pour réciter Asher Yetzar. Il y a essentiellement quatre chitotes. Il y a essentiellement quatre avis, quatre opinions sur la question. Donc je répète encore une fois que la question que nous sommes en train de traiter, c'est combien avons-nous de temps pour réciter Asher Yetzar lorsqu'on sort des toilettes. Alors, il y a quatre chitotes dans les Aharonim. Il y a quatre opinions dans les Aharonim. La première, c'est celle du Sefer Yad Aharon, qui dit la chose suivante. Il dit, quelqu'un qui n'a pas fait Asher Yetzar lorsqu'il est sorti des toilettes, eh bien, il peut le faire à filo harizman rav. Yad Aharon dit, quelqu'un qui n'a pas fait Asher Yetzar immédiatement après être sorti des toilettes, ben il peut le faire même longtemps après. Longtemps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Il se souvient qu'il n'a pas fait, eh bien, il peut encore le faire. Il faut qu'il soit sûr, bien sûr. S'il a un doute, il ne le fait pas. Mais s'il est sûr et certain qu'il n'a pas fait, dis le Yad Aharon, yallah, tu peux le faire encore. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est Birkat Hoda'a. Parce que Asher Yetzar, c'est une bracha de reconnaissance à Hachem. C'est une bracha à travers laquelle on exprime toute notre reconnaissance à Hachem sur les bienfaits du transit du corps humain. Et quand il s'agit d'exprimer sa reconnaissance au Créateur, eh bien, chaque instant est le moment de remercier Hachem. Chaque moment, il n'y a pas un moment précis. Chaque moment de la journée, c'est apte, c'est digne de remercier Hachem. Chaque instant est bon pour remercier Hachem. Donc, comme c'est Birkat Hoda'a, comme Asher Yatsar, c'est une bracha de Hoda'a, c'est pas Birkat HaMitzvot ou Birkat HaNehenin, c'est Birkat Hoda'a, c'est une bracha à travers laquelle on exprime notre reconnaissance à Hachem. Chaque instant est valable pour être reconnaissant envers Hachem. On est dans la Shita Aleph. On est dans la première opinion. Il y en a quatre. Sabar, deux minutes. Donc, première opinion, celle du Yad Aharon. Première opinion, celle du Yad Aharon. J'ai pas dit que c'était la halakha. J'ai dit que c'est une opinion. Le monde, il s'est fait en six jours. Il aurait pu se faire en un clin d'œil. Alors, donc la première opinion, celle du Yad Aharon. Yad Aharon, il dit Asher Yatsar, c'est Birkat Hoda'a. C'est une bracha de remerciement. C'est une bracha à travers laquelle tu exprimes toute ta reconnaissance à Hachem. Chaque moment, chaque instant qui passe, il est bon pour le faire. Si tu ne l'as pas fait tout de suite après les toilettes, eh ben, tu peux le faire même longtemps après. Le Yad Aharon, il n'est pas tout seul, il est suivi par beaucoup de poskim. Le Levouche, comme ça, il tranche. Le Prime Gadim, le Mishnah Brura, comme ça, il tranche. Le Mishnah Brura, il tranche explicitement Siman Zayn Saif Katan Alef, Kafilo Hariz Manrav. Même longtemps après, je peux faire Asher Yatsar. Ça, c'est la première Shita. Tout ce que je viens de dire, c'est la première opinion. Première opinion, combien de temps avons-nous pour faire Asher Yatsar? Première opinion, eh ben, t'as autant que tu veux. D'accord? Bon. Deuxième opinion, le Hida dans Mahzik Bracha. Le Hida dans Mahzik Bracha, sur Siman Vav, le Hida dans Mahzik Bracha, il cite Maharam Dilunzano. Maharam Dilunzano, un de nos poskim, il dit Im avar pahot misha'a arezehefsek. Mais je vous le Maharam Dilunzano dit s'il s'est écoulé moins d'une heure, il dit même pas une heure, moins d'une heure, il ne peut plus la faire. Et le Hida, sur ça, il dit en fait moins d'une heure, ça ne veut rien dire. Parce que moins d'une heure, ça peut être 10 minutes. Ça peut être 5 minutes, ça peut être un quart d'heure, ça peut être une demi-heure, ça peut être 3 quarts d'heure. Tout ça, ça s'appelle moins d'une heure. Donc ça veut dire ça. Et le Hida, il dit, « Im avar zman ma », encore pire, « un temps soit peu ». Zman ma, ça veut dire vraiment un rien. « Im avar zman ma », ça veut dire « un temps soit peu », chouf lo yevarech, il ne peut plus faire la bracha. Oh, attends. Lui, il me dit, moins d'une heure, mais moins d'une heure, ça veut tout dire et rien dire. Toi, tu me dis, « un temps soit peu ». Et voilà, dites-moi quelque chose. On ne comprend pas ni Maharam Dilunzano ni le Hida. On ne comprend pas. Il y a un sefer qui s'appelle Zichronot Eliyahu. Zichronot Eliyahu a été écrit par Rabbi Eliyahu Mani, alav shalom. Rabbi Eliyahu Mani, c'était le rav de la ville de Hevron il y a environ 200 ans. Rabbi Eliyahu Mani, il écrit un sefer qui s'appelle Zichronot Eliyahu. Et il dit comme ça. Il dit, « Shamati mipi mori agaon, j'ai entendu de la bouche de mon maître, le Gaon. » C'est qui son maître, le Gaon? Le maître de Rabbi Eliyahu Mani, c'est Rabbi Abdullah Somer, alav shalom, de Bagdad. C'était le rav du Ben Ish-Hai également. Rabbi Abdullah Somer, alav shalom, l'a écrit, c'est vrai qu'il s'appelle Zivhet Tzedek. Il dit, Rabbi Eliyahu Mani, j'ai entendu de la bouche de mon maître, Rabbi Abdullah Somer, que lorsque le Hida dit Zman Ma, s'il s'est écoulé un temps soit peu, je ne peux plus faire la sharia tsar. Dit le Zichron de Léo, dit Rabbi Eliyahu Mani, mon maître explique ce Hida de la façon suivante. Quelle façon? Il dit, voici comment mon maître expliquait ça. Dans tous les domaines de la halakha, le plus petit laps de temps qu'on a trouvé, tous les domaines, tout confondu, chaque fois qu'il s'agit d'un laps, chaque fois qu'il est question d'un laps de temps, chaque fois qu'il est question d'une notion de temps, le plus petit moment, le plus petit laps de temps qu'on a trouvé dans les exigences de la halakha, dans tous les domaines tout confondus du Shulchan Aruch, c'est le 1000. Le 1000, c'est une mesure d'halakha, c'est une mesure temporelle de halakha. Enfin, une mesure temporelle, non, c'est une mesure géographique plutôt. Le 1000, c'est une distance. Le 1000, c'est une distance. Et ça correspond à 18 minutes. C'est une distance à parcourir à pied. Et on estime cette distance, on estime le temps qu'il faut pour parcourir cette distance à 18 minutes. D'après Maharal Shulchan Aruch, 1000, une distance de 1000 se parcourt à pied en 18 minutes. Donc, dit le Zivhet Tzedek, cité par son élève le Zichronot Eliyahu, sur l'opinion du Hida, que lorsque le Hida, et même le Maharam Dilunzano, il faut l'expliquer comme ça, que lorsqu'ils disent un il dit moins d'une heure, l'autre il dit ben, un temps soit peu. Qu'est-ce que ça veut dire ces notions très, très floues? Il dit en vérité c'est 18 minutes. Ça ne peut pas être moins que 18 minutes. Donc ça veut dire qu'on a pour l'instant, et deux chitotes, deux opinions claires dans la chérie de ça. Première opinion, celle du Yad Aharon et ses copains. Ses copains, c'est le Levouz, Prime Gadim, Mishnaboura, qui disent, première, c'est autant que tu veux. Afilah Harzman Rav. Même longtemps après, tu peux faire. Deuxième opinion, celle du Hidan, Maram de Lunzano, expliquée par le Zikron Otelia ou le Zuhid Sedek, 18 minutes. 18 minutes pour faire la chérie de ça. Troisième opinion, Binishhai. Binishhai Parashat Toldot. Binishhai Parashat Toldot, il dit Hatsi Sha'a. Une demi-heure. Il dit j'ai une demi-heure, pas plus. Tant que je suis dans la demi-heure, je peux encore faire la charia de ça. Si j'ai dépassé la demi-heure depuis longtemps, j'étais aux toilettes, je ne peux plus faire la charia de ça. D'où il a trouvé ça? Il a trouvé dans Sefer Hesed l'Alafim. Hesed l'Alafim, qui était écrit par Rabbi Eliezer Papo, alav shalom, l'auteur du Pele Yoetz. Il a écrit également un ouvrage, donc sur Shouchan Aruch, qui s'appelle Hesed l'Alafim. C'est ainsi que tranche également d'autres poskim sfaradim, comme le Birkat Yosef de Rabbi Yosef Yedid, qui était Av Beddin Aram Tsova, Halab, en Syrie, il y a environ 150 ans. Et il y a également le Pene Yitzhak, Rabbi Yitzhak Abul Afi, qui était également Av Beddin en Syrie, qui tranche également qu'on peut faire la charia tsar tant qu'il ne s'est pas écoulé une demi-heure depuis le moment où on a été aux toilettes. Donc Ben Ishaï et ses copains, c'est la troisième opinion, c'est Hatsi Isha'a, une demi-heure. Quatrième opinion, le Gaon Ya'abet, dans Sheilat Ya'abet, il dit, tant que je ne retourne pas aux toilettes, tant que je n'ai pas de nouveau, tant que je ne ressens pas de nouveau l'envie de retourner aux toilettes, et que la fois d'avant, je n'ai pas fait la charia tsar, je peux encore la faire. Gaon Ya'abetz dit, donc il n'y a pas un temps. Il ne lui donne pas un temps précis. Il dit, ok, tu as été, tu n'as pas encore fait, tu t'en souviens maintenant. Si maintenant tu n'as pas envie d'aller, tu peux encore faire. Si maintenant tu as envie d'y aller, tu peux plus faire. Enfin, tu feras, deuxième fois, tu feras quand tu vas sortir cette fois-ci. Ok, ça n'a rien à voir, c'est un autre dossier. Mais ça veut dire la première fois, la fois où tu as oublié de faire, la fois précédente, tu as oublié de faire, si là maintenant où tu t'en souviens, maintenant où tu t'en rends compte, si maintenant là présentement, tu n'as pas encore de nouveau envie d'y retourner, tu peux encore faire. Mais si tu as de nouveau envie d'y retourner, la fois d'avant les grillés, c'est fini. Donc maintenant tu vas y aller. Et ben, quand tu sors, n'oublie pas de le faire. Voilà ce qu'il dit le Gaon Ya'abetz. Le Gaon Ya'abetz ne donne pas un temps précis. Il dit ça dépend de la sensation. Si maintenant, entre la fois où j'ai été et maintenant où je m'en rends compte, j'ai pas particulièrement envie d'y retourner, alors je peux encore faire. Même si c'est passé une heure, deux heures, une demi-heure, peu importe. Peu importe. Tant que j'ai pas de nouveau envie depuis la fois d'avant, je peux encore faire. Mais si j'ai de nouveau envie, au moment où je me rends compte, j'ai de nouveau envie d'y aller, eh ben c'est fini. La charia tsar de la fois d'avant, elle est grillée. Je ne pourrai que réciter sur la fois qui vient. Comme ça, dit le Gaon Ya'abetz. C'est clair, les quatre opinions, c'est clair. Première opinion, c'est illimité. Deuxième opinion, 18 minutes. Troisième opinion, 30 minutes, une demi-heure. Quatrième opinion, tant que tu n'as pas de nouveau envie. Eh ben, je n'ai pas dit encore la cinquième et la dernière qui est la plus définitive. D'accord ? Donc maintenant, comment faire ? Quelle est la halakha ? La 4, Aziz, dis-moi, est-ce que c'est illimité, comme le forfait de CFR ? Est-ce que c'est 18 minutes ? Est-ce que c'est 30 minutes ? Est-ce que c'est... Ouais, entrée libre, ouais, c'est quoi ? Est-ce que c'est tant que j'ai pas encore de nouveau envie ? C'est quoi la halakha ? Et moi, c'est... Le Rav... Le Rav, dans un premier temps, à l'époque où il a écrit Yabi Omer, ça veut dire il y a environ 60 ans, ce qui est sorti le premier tome de Yabi Omer, c'est environ il y a 60 ans, il avait écrit là-bas en Siman Tet, il avait retenu l'opinion du Ben Ishaï, une demi-heure. À l'époque, quand il avait rédigé une tchouva là-dessus, il avait retenu là l'opinion numéro 3, Ben Ishaï, 30 minutes. Tant que je n'ai pas dépassé 30 minutes, je peux encore faire. Si j'ai dépassé 30 minutes, je ne peux plus faire. Effectivement, dans Yabi Omer Hel Kalef, c'est comme ça que le Rav tranchait. Mais plus tard, une trentaine d'années plus tard, dans les années 70, le Rav a sorti Shuti Havedat, Helek Dalet, tome 4, à la fin du chapitre 5. Et le Rav là-bas revient sur ce point. Et il dit, Umatsati, j'ai trouvé dans les propos d'un ritba. Le ritba fait partie des décisionnaires médiévaux. Ça veut dire c'est avant, je prends un arour. Le ritba, le rav a trouvé dans les propos du ritba la chose suivante. Et je vous ai, pour introduire ce ritba, je suis obligé de passer par autre chose. Regardez. Il y a une gemara psahim, daf mem vav, qui dit la chose suivante. Là-bas, la gemara dit, de façon un petit peu énigmatique, la gemara dit là-bas, velintilat yadaim arba'a milim. La gemara dit que pour obtenir de l'eau, pour faire netilat yadaim, la gemara ne parle pas de quel netilat yadaim il s'agit. Est-ce qu'il s'agit du réveil? Est-ce que c'est celle du repas? Est-ce que c'est celle de quand on sort de toilette? La gemara ne précise pas. Elle dit c'est pour l'ablution des mains, de façon comme ça très floue, pour l'ablution des mains, eh bien, Hachamim impose à la personne, si elle n'a pas d'eau à sa proximité, pour l'ablution des mains, Hachamim lui impose de marcher une distance de 4 milim. Donc tout à l'heure, on a parlé de 1 mil qui fait 18 minutes. 4 milim, ça fait 72 minutes. 4 fois 18, ouais, vous êtes d'accord avec moi, ça fait 72. Donc, la Gemara dit, si quelqu'un doit faire Netilat Yadayim, mais encore une fois, je répète que la Gemara ne précise pas de quel Netilat il s'agit. La Gemara ne précise pas s'il s'agit de celle du réveil, du repas, de la toilette. La Gemara ne dit pas. Elle dit l'ablution des mains. Pour faire une ablution des mains, si quelqu'un n'a pas d'eau, Hachaim lui impose de marcher une distance de 4 minutes. Ça veut dire de marcher jusqu'à 72 minutes à pied. 72 minutes. Pour obtenir, pour aller chercher de l'eau, pour se laver les mains. Si au-delà de ça, il ne trouve pas, c'est autre chose. C'est un autre problème, on n'en parle pas tout de suite. On n'en parle pas maintenant pour ne pas compliquer les choses. Mais en tout cas, quelqu'un qui doit se laver les mains, pour l'instant, on va dire comme ça, de façon anonyme, quelqu'un qui doit se laver les mains et qui n'a pas d'eau, eh bien, il est obligé d'aller chercher de l'eau jusqu'à une distance de 4 milines, une par ça. 4 milines. 4 milines, c'est 72 minutes de marche. D'accord, on va dire. En vérité, ça correspond même en kilomètres, ça correspond par ça, ça fait à peu près 8 à 9 kilomètres, à peu près. À peu près. D'accord ? Maintenant, ça c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Maintenant, de quel Netilat Yadayim il s'agit ? Rashi, sur place, et la majorité des Rishonim, ils disent qu'il s'agit de la Netilat Yadayim du repas. Netilat Yadayim l'Akhila. Rashi l'écrit Mefourash, Netilat Yadayim l'Akhila. Rashi l'écrit là-bas sur place, il s'agit de quelqu'un qui veut manger du pain, et il n'y a pas d'eau. Hachem dit, Habibi, tu ne peux pas manger ton pain. Vas-y, marche, va chercher de l'eau. Jusqu'où combien je marche ? 4 minutes. Après, on verra. Après, on te dira ce qu'il faudra faire. Si vraiment au bout de 4 minutes, tu n'as pas trouvé d'eau, on te dira ce qu'il faudra faire. Mais en tout cas, dans l'immédiat, tu ne peux pas manger ton pain, il faut que tu te laves les mains. Tu ne peux pas manger ton pain comme ça. Et tu n'as pas d'eau à côté de toi, yallah, marche, va chercher. Jusqu'à 4 milines, jusqu'à une distance de 1 par ça, tu dois chercher de l'eau pour faire une Netilat Yadayim pour le repas. Comme ça, disent Rashi et l'ensemble des Rishonim. Mais il y a un rythme. Dans ses commentaires sur cette Gemara Psahim Memvav, qui dit qu'il ne s'agit pas de la Netilat du repas. Et rappelez-vous que la Gemara n'a pas précisé de quoi il s'agit. La Gemara des Netilat, elle n'a pas dit de quoi il s'agit. Le Rashi, l'ensemble des Rishonim, ils disent c'est le repas. Le Ritba, il dit non, c'est pas forcément le repas. Ça peut être aussi un Sheri Yatsar. Ça peut être aussi un Sheri Yatsar. Ça peut être quelqu'un qui vient d'aller aux toilettes, qui vient de faire ses besoins naturels, et qui doit maintenant réciter la bracha d'Asher Yatsar. Mais seulement, est-il concevable de réciter la bracha d'Asher Yatsar sans se laver les mains? Assour. On parle d'un cas où il a touché son corps, etc. Où il était carrément dans un toilette. Enfin, en tout cas, un cas où il est impératif de se laver les mains pour pouvoir réciter Asher Yatsar. Il ne peut pas réciter la bracha d'Asher Yatsar sans se laver les mains. Il faut de l'eau. D'accord? Qui plus est, il est strictement interdit de marcher, de rester avec des mains impures. Oui, surtout s'il s'agit d'un Talmid Hacham, surtout s'il s'agit d'un homme érudit dans la Torah qui a constamment son cerveau qui fonctionnerait qu'avec des pensées, des réflexions de Torah. Oui, donc toutes les façons, il faut qu'il se lave les mains pour pouvoir faire Asher Yatsar, pour pouvoir rester la bracha d'Asher Yatsar. Eh bien, dit le Rav de Ritva, selon la vision du Ritva, ce cas de la Gemara, c'est justement quelqu'un qui vient d'aller aux toilettes, qui doit maintenant impérativement réciter la bracha d'Asher Yatsar, qui n'a pas d'eau autour de lui pour pouvoir se laver les mains, pour pouvoir réciter cette bracha. Eh bien, comment il fait ? Hachamim lui impose de marcher jusqu'à une distance de une parsa pour trouver de l'eau et pour pouvoir faire Asher Yatsar. Or, j'ai dit tout à l'heure qu'une parsa, c'est 4 milines. Et 4 milines, c'est 4 fois 18 minutes. 4 fois 18 minutes, ce sont 12 minutes. Ça veut dire, de là, il y a une preuve. De là, une preuve dans les Rishonim. Pas n'importe quoi. Preuve dans les Rishonim que j'ai 72 minutes pour faire la Shariatar. Et si les Aharonim qu'on a cités tout à l'heure, le Yad Aharon, le Hida, Maram de Lunzano, le Benishai, le Zivhet Tzedek, tous les Aharonim, le Gaoni Abetz, tous les Aharonim qu'on a cités tout à l'heure, s'ils avaient vu ce ritba, bevadai, qu'ils n'auraient pas tranché ni 18 minutes, ni une demi-heure, ni autant de fois qu'ils veulent, ils vadai qu'ils auraient tranché comme ce ritba là. Vadai qu'ils auraient tranché comme ça. Non, mais attends. Attends, qu'est-ce que tu ressors de là? Ça veut dire que tu retardes la bracha combien de temps?
72 minutes.
C'est tout ce qu'on veut. J'ai plus de questions, votre honneur.
Et quel rapport avec
le fait, si on... Non, mais ça veut dire maintenant tu as une preuve d'ici, tu as une preuve de là, que j'ai 72 minutes, que tu le veuilles ou non, pour faire la charia de ça. L'Akhbadli, ça veut dire que j'ai 72 minutes pour faire la charia de ça. C'est une preuve ou c'est pas une preuve? C'est une preuve. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, Bevadai, que si les Aharonim qu'on a cités tout à l'heure, je vous dis, le Hida, Maham, Dunzano, Benishai, tous les Aharonim qu'on a, le Gaoni Abetz, tous les Aharonim qu'on a cités tout à l'heure, les quatre premières opinions que j'ai citées tout à l'heure, s'ils avaient eu connaissance de ce rite, Bevadai, ils n'auraient pas tranché comme ils ont tranché. Bevadai, ils auraient tranché que ce sont 12 minutes. On est obligé de dire qu'ils n'ont pas vu. Et vous savez que, je vais vous dire quelque chose, vous savez que le fait de dire que tel ou tel décisionnaire n'ont pas vu les propos de tel ou tel autre décisionnaire antérieur à eux, n'est pas un blasphème, n'est pas une injure, n'est pas une insulte. Je sais qu'ici, ici en France, ils ont du mal avec ce principe. Il faut savoir que c'est un principe d'Alakha. Mamash, c'est un principe de raisonnement alakhique. Des fois, on dit, il aura un. Si tel ou tel possède qui a tranché de telle ou telle façon, s'il avait vu les propos de tel ou tel de ses prédécesseurs, il n'aurait pas, ça aurait forcément influé sur sa décision alakhique. C'est un principe d'Alakha, mamash. Il y a des Alakhot qui ont été transformés grâce à ce principe. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, en 2010, on vit une époque, Baruch Hashem, on peut se procurer aujourd'hui, ils sont édités, même dans le monde de l'étude de la Torah, dans le monde de plus haut niveau, le plus haut niveau de l'étude de la Torah, aujourd'hui, Baruch Hashem, on a accès à tous les livres qui ont existé un jour. On a aujourd'hui accès à des livres qui ont été écrits il y a 500 ans, 600 ans, 800 ans, 900 ans, Moyen-Âge, 1500 ans. Aujourd'hui, on imprime des livres qui ont été écrits il y a 1500 ans en arrière. Ça veut dire que ce n'est pas un problème aujourd'hui, Baruch Hashem. Aujourd'hui, quelqu'un, un Hacham, qui veut rédiger un ouvrage de Halakha et qui a besoin donc de livres de référence, et Baruch Hashem peut se procurer tout ce qu'il veut. Donc forcément, il peut avoir connaissance. Il peut avoir connaissance de toutes les opinions, de tous les décisionnaires qui l'ont précédé. Sans problème. Sans aucun problème. Mais mettez-vous dans le contexte de l'époque, par exemple, du Hida. Le Hida, il vivait il y a 200 ans. Le Benishai, il vivait il y a 150 ans. Donc, Maram de Lunzano, il vivait il y a 300 ans, 350 ans en arrière. Donc, à l'époque, tous ces grands hachamim, tous ces grands décisionnaires, si grands qu'ils étaient, ils n'avaient pas à disposition autant de livres qu'aujourd'hui. Les Hidushim du Ritba, bien que le Ritba les a largement précédés, parce que le Ritba est là du Moyen-Âge, mais ces commentaires ont été que tardivement publiés. Ces commentaires sur la Gemara ont été que tardivement publiés. Et même s'ils étaient publiés, ils n'étaient pas accessibles à tout le monde. Tout le monde ne pouvait pas se payer le luxe de s'acheter des livres. Même les plus grands hachamim, les plus grands rabbanim, des fois il fallait de l'argent pour envoyer, ça coûtait très très cher pour obtenir des livres. Donc il n'est pas du tout gênant de dire que tel ou tel décisionnaire de n'importe quelle époque, si grand soit-il, il n'est pas du tout insultant ou gênant de dire qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu les propos de tel ou tel de ses prédécesseurs. Il n'y a rien d'insultant là-dedans. C'est purement technique. C'est purement technique. Donc, cette opinion du Hida, cette opinion du Ritba dans Maseret Psachim, apparemment, les Aharonim qu'on a cités tout à l'heure n'en ont pas eu connaissance. Parce qu'il est plus qu'évident que s'ils en avaient eu connaissance, le Vadaï qu'ils n'auraient pas tranché comme ils ont tranché, ni 18 minutes, ni 30 minutes, ni indéfiniment. Non, impossible. Un Aharon ne peut pas avoir... S'il y a un Rishon qui s'est exprimé sur quelque chose, un Aharon ne peut pas dire autre chose. Impossible. Il y a une hiérarchie. Il y a les Rishonim, il y a l'époque des décisionnaires Rishonim. Ce qu'on appelle les décisionnaires médiévaux. Les décisionnaires médiévaux, jusqu'au Shulchan Aruch, ils ont force de loi. Tout ce qu'ils disent, ça doit être pris en compte par n'importe quel poste qui vient après. Par contre, les Aharonim entre eux, un Aharon vis-à-vis d'un autre Aharon, il peut avoir une opinion différente. Ça, c'est possible. Mais un Aharon ne peut pas être relève sur un Rishon. C'est impossible. C'est pas possible ça. Très bien. Donc c'est pour ça que je vous dis, la source n'est pas des moindres, puisque je vous dis c'est un ritba dans Maseret Psachim. C'est quand même pas n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis ça change tout. Et Alakha le Maaseh, comme ça on tranche. On tranche que quelqu'un qui n'a pas fait la charia de tsar immédiatement et après être sorti des toilettes, pour une raison quelconque, il a 72 minutes pour le faire. Qu'est-ce que vous parlez, qu'est-ce que vous voulez dire par interrompu?
Moi, je suis au bureau, je suis dans les toilettes, d'un coup, le téléphone, il sonne, je suis obligé de répondre.
Vous ne pouvez pas. Si vous avez entamé la bra... Vous avez entamé la bra...
Non.
Ah, pas entamé? Ah, bah, d'ailleurs, vous avez le droit de parler. Après le toilette, vous avez le droit de parler. Tant que vous n'entamez pas la bra, vous pouvez faire ce que vous voulez.
Non,
on peut parler. C'est pas Netila et Motsi. Et encore, même là-bas, c'est pas... Bref, mais je veux dire... Non, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est qu'au moment où vous entamez la bra, c'est fini. Jusqu'à refaire colbassar ou mafli la assaut, vous ne pouvez rien faire. Parce que vous ne pouvez pas parler. D'accord. Donc, al-khalema'asé, maskana de milta, la conclusion à l'Afrique de ce point, c'est que si quelqu'un n'a pas récité à Shariat Sar immédiatement après être sorti des toilettes, il a 72 minutes pour le faire. Mais encore une fois, il faut qu'il soit certain qu'il ne l'a pas fait. Parce que s'il a ne serait-ce qu'un doute, il ne le fait pas. C'est toujours très bien, ça fait que berachot, le hakel. Chaque fois qu'on a un doute, s'il faut oui ou non réciter une bracha, il ne faut pas la faire, jamais. D'accord ? On a déjà appris ça plusieurs fois. Donc à Shariat Sar, c'est la même chose. Je sors des toilettes, je me lave les mains, je rencontre quelqu'un, je réponds à un coup de fil, et puis d'une chose à l'autre, j'oublie. Et puis après, je me rends compte que je n'ai pas fait, il faut que j'ai la certitude que je n'ai pas fait. Alors, première condition, il faut que j'ai la certitude que je n'ai pas fait. Deuxième condition, il faut que je regarde ma montre. Il faut que je sois sûr que je ne suis pas au-delà des 72 minutes depuis le moment où j'étais aux toilettes. Si je ne suis pas au-delà des 72 minutes, je peux encore le faire. Si je suis au-delà des 72 minutes, ou si ne serait-ce que j'ai un doute seulement, eh bien, je laisse tomber, vaut mieux pas faire. Si vous avez un doute, vous ne pouvez pas faire.
Vous avez dit la dernière fois qu'il était mieux de faire les charafas avec les mains mouillées. Donc, forcément, c'est quand même près de la bracha. On a les mains mouillées. On a fait un rubon pour pouvoir
se... Ça, c'est si vous le faites tout de suite, effectivement. Mais si maintenant, vous n'avez pas le temps de vous sécher les mains, que quelqu'un vient vous parler, etc., et puis machinalement, vous prenez la serviette et vous commencez à vous essuyer, etc., ceci, cela, et puis après, d'une chose à l'autre, vous oubliez de faire. Donc ça, faut savoir que vous avez 72 minutes pour le faire. Non, on peut le faire même après. J'ai jamais dit qu'on ne peut pas faire un Shariat Sar après s'être séché les mains. J'ai jamais dit ça, moi. J'ai dit le mieux, j'avais cité, en plus c'était qu'une opinion, c'était le Hida, si je me souviens bien, qui disait que c'était mieux d'avoir les mains mouillées. Mais enfin, c'est qu'une préférence, c'est pas une exigence. Hein. C'est une préférence, pas une exigence en Afrique. Oui, le Khadraïla, mais je vous dis, vous pouvez maîtriser tout ce qui vous arrive dans votre vie. Vous ne pouvez pas maîtriser qu'on va vous appeler au téléphone à ce moment-là ou qu'on va vous appeler venir bien vite ceci, cela.
David, ouais. Imaginons qu'on cherche donc les 72 minutes comme l'a dit le petit pas là dans. Ça nous laisse le temps d'aller voir chercher de l'eau. Et si à ce moment-là il pleut, est-ce que ça marche là?
Est-ce qu'on peut se laver les mains avec l'eau de pluie? Je regarde ça. Bonne question. Je te répondrai la prochaine fois qu'il pleut. On verra ça aussi, non, parce que j'ai consacré aussi un jour pour ça. Avec quoi on peut se laver les mains? On verra ça, on verra. S'il n'y a pas d'eau, est-ce qu'on peut se laver avec autre chose? On verra la neige, etc. Oui. Les tilatanim de quoi? Du réveil ou de Saouda? Du repas? C'est pas toujours les mêmes à la côte. Mais bon, vas-y. Oui. On peut le faire? Donc tu parles de la bracha?
Non, au début quand tu as les
mains. Ah, si tu as les mains déjà mouillées de autre chose, tu veux dire?
Tu as
déjà les mains mouillées par rapport à autre chose. C'est ça? Ah.
Alors,
si les mains sont vraiment mouillées, ce sont légèrement humides, c'est pas méchant, mais si elles sont vraiment, vraiment mouillées, il faut les sécher. Si elles sont vraiment... Par exemple, tu avais de la saleté, tu avais de la boue, tu avais je sais pas quoi. T'avais des produits d'automobile, je sais pas quoi. T'as réparé ta voiture juste avant, je sais pas. Et t'as vraiment les mains sales. Alors effectivement, avant de faire les toilettes, t'es obligé d'abord d'enlever toutes les saletés apparentes sur tes mains. Donc dans ce cas-là, on prend du savon, on prend du détergent, des choses comme ça. Obligé d'enlever tout ce qui apparaît. Maintenant, tu veux faire une étiquette tout de suite après pour manger ton repas, par exemple. Alors effectivement. Ah, c'est différent. Si c'est au sortir des toilettes, et que maintenant tu as lavé tes mains avec du savon, avec n'importe quoi, et que maintenant tu veux faire la bracha, c'est ça, maintenant tu veux faire la Shariat Sar. Non, il n'y a pas de problème, tu peux la faire là, tu peux la faire aux mains mouillées, aux mains sèches, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est pour ça que je te dis, faire attention, parce que ce n'est pas les mêmes halakhot. N'est-il la dame du réveil et n'est-il du repas, par contre, c'est autre chose.
Par contre, là-bas, c'est autre chose. Si maintenant, je prends un exemple. J'ai réparé ma voiture. D'accord ? Donc, j'ai les mains pleines de cambouis, de trucs, j'ai les mains noires. Okay ? Et je vais prendre mon repas, je vais manger, je vais faire motzi. Alors, évidemment, qu'avant de faire une tiyas daim, c'est assourd de faire une tiyas daim avec des mains comme ça. C'est pas le droit. Parce que ces saletés apparentes font hatsitsa, ils font éléments séparateurs entre l'eau et la peau de la main. Donc, je suis obligé d'abord d'enlever tout ce qui est visible. Donc, je prends du savon, les produits, machin, tout ce que vous voulez. J'enlève tout ça. Une fois que ça s'est enlevé, je vais maintenant faire une tiyas daim pour manger mon repas avec le keli. Alors, la question, c'est de savoir maintenant, elles sont encore mouillées de mon premier lavage. Alors, c'est pour ça que je réponds dans ce cas-là. Si elles sont réellement mouillées, maman, je prends mouillées, voilà. Alors, c'est sûr qu'il faut les sécher avant de faire une tiyas daim. Maintenant, elles sont sèches, ça va rien encore, quelques petites gouttes d'eau par-ci, par-là, c'est pas méchant. Ça, c'est pas la peine de sécher. C'est pas obligatoire de sécher. Mais si elles sont vraiment, vraiment mouillées, et que je veux faire immédiatement une tiyas daim telle qu'elle, il faut que je les sèche d'abord. Tam hygiène, oui. Bah c'est pareil. Tant qu'elles sont vraiment trempées, tant qu'elles sont vraiment mouillées, vraiment, sûr, il faut sécher. Par exemple, si elles sont sèches, parce que par exemple, j'ai lavé, après j'ai parlé avec quelqu'un, et le temps que je parle, ça a séché tout seul. Où il faisait 45 degrés à l'ombre, donc ça a séché très rapidement. Et après, bon, il reste 2-3 gouttes par-ci par-là, c'est pas méchant. Ça, je peux faire des petits design directement. Si elles sont vraiment mouillées, il faut les sécher d'abord. Ça va, les amis? C'est clair? Bon, la semaine prochaine, on continuera. Et on verra, hein. Je vous dis tout de suite ce qu'on va voir la semaine prochaine. On verra, j'ai prévu. Voilà. La semaine prochaine, on verra le cas où, grosse mahloquette d'ailleurs, grosse divergence d'opinion dans la chique, parmi les poskim, le Shranaouk également. Quelqu'un est allé deux fois aux toilettes. La première fois, il n'a pas fait la chariata. D'accord ? On verra, est-ce que la deuxième fois, il doit faire deux fois la bracha ? Est-ce qu'il doit réciter deux fois la bracha ou une fois ? Ouais, c'est une grosse mahloquette. Et on abordera aussi les cas des maladies. Les maladies urinaires, les diarrhées, les choses comme ça. Ça va être très très passionnant, je vous reviens, ouais. Ça va tâcher. D'accord. Voilà les amis. Merci. Donc, jusqu'à la semaine prochaine. Tenez bon.